Oui, Seigneur, merci, merci, parce que nous pouvons nous réunir et t'adorer, Seigneur. Merci pour cela. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi la possibilité de te rendre une part de ce que tu nous as donné. Alors, pour la corbeille qui est au fond de la salle, Seigneur, enfin au début quand on entre, Seigneur, là où nous mettons la part qui te revient, merci Seigneur pour ceux qui ont donné. Merci Seigneur parce que nous savons que, comme l'a dit notre pasteur Vincent, cet argent et cette somme, cet argent t'appartient. Et Seigneur, fais que l'Église de Persan soit bien dirigée par toi de manière à ce que ce soit utilisé d'une manière dont tu le souhaites, Seigneur. Seigneur, merci pour ceux qui ont donné, bénis-les. Et Seigneur, je voudrais te remettre ceux qui, pour l'instant, ne peuvent pas donner, mais tu vas les bénir et ils pourront te rendre ce que tu leur as donné, la part qui te revient. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais continuer par une autre prière. Oui, Seigneur, je voudrais te remercier pour ta fidélité. Oui, Seigneur, jamais tu ne nous abandonnes. Tu es là à chaque instant. Tu es là à chaque moment de notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu as un regard bienveillant sur nous, pour nous. Vraiment, tu es notre papa. Oui, et nous sommes tes enfants. Et à chaque instant, oui, tu ne nous quittes pas des yeux. Tu es là. Merci pour cela. Dans ta parole, il est dit, Seigneur, que tu pouvais mettre 99 de tes brebis de côté. Je n'ai pas dit que tu les abandonnais. Tu les mets de côté et tu vas chercher celle qui s'est égarée, la centième, pour que ton troupeau soit au complet. Oui, et quand tu la retrouves, tu te réjouis. Or, Seigneur, oui, Seigneur, tu as toujours un regard bienveillant sur nous, un regard d'amour. C'est vrai que l'on l'a chanté aujourd'hui et on doit le chanter chaque jour. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, pour cette proximité que tu as avec nous. Alors, je vais revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, lundi soir notamment. Nous étions tous réunis pour remettre, pour accompagner, pour tenter d'accompagner Jean-Robert dans son départ vers le Seigneur. Et lundi soir, quand je suis rentré chez moi, ma femme, qui n'a pas pu venir parce qu'elle travaillait, m'a dit... Ça s'est bien passé? Pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Et puis elle a enchaîné, elle m'a pas laissé le temps de répondre. Elle m'a dit, tu sais, j'ai du mal à imaginer que Jean-Robert soit parti. Et là, j'ai eu cette réflexion. En fait, est-ce que c'était pour elle une prise de conscience que nous sommes, nous, chrétiens, différents et que les choses ne s'arrêtent pas au moment de notre mort, mais qu'il y a une continuité, que nous ne sommes pas abandonnés? J'ai l'occasion, malheureusement, d'aller dans des enterrements de personnes qui ne sont pas chrétiennes et... On sent un malaise chez eux, une interrogation. Je trouve ça très triste. Là, ils sont tristes, effectivement, parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils ont l'impression que ça s'arrête, que leur vie est contre un mur ou devant un précipice. Je me suis dit, Est-ce que ma femme prend conscience de l'éternité? Quelques jours après, j'ai une de mes tantes qui s'appelle Paulette, qui est venue, je crois, deux fois ici, peut-être trois, je ne sais plus. Et je l'avais informée du décès de Jean-Robert. Et même chose, elle me dit, ça s'est bien passé. Elle me dit, oh, mais de toute façon, chaque fois que je suis venu, j'ai vu de la joie chez vous. Et là, je me suis dit, là encore, nous sommes différents. On peut être... J'avais cette parole qui me venait dans des situations comme celle-ci. Mon cœur est triste, mais mon âme est joyeuse. En fait, quand elle a dit joyeux, je pense qu'elle a plutôt pensé serein. Parce qu'on sait qu'il y a une continuité, qu'il y a l'éternité avec notre Seigneur. Une continuité, oui. Avec Dieu, il y a une suite dans toute chose. Il y a une suite dans toute chose. Il y a une logique, il y a des étapes que l'on doit franchir. Je vais revenir sur le message de quelques mots du message de Lionel de dimanche dernier, où il nous a parlé du papillon, de la chenille et du papillon. Alors en fait, il a abrégé les étapes parce que la métamorphose du papillon, c'est il y a le papillon pond des œufs, ses œufs se transforment en chenille, la chenille se transforme en chrysalide, et de la chrysalide sort un papillon, et le cycle recommence. Ça ne s'arrête pas. Ça peut être éternel. Il y a un instant, on vient de prendre la Sainte Cène. On a rompu le pain. Le pain, comme l'a dit Vincent, c'était le symbole du sacrifice de notre Seigneur. C'est aussi une nourriture. Alors pour avoir cette nourriture matériel, qu'est-ce qu'il faut? De la terre. S'il n'y a pas de terre, ça ne peut pas marcher. Il faut un laboureur, parce que cette terre, il faut la préparer. Il faut la retourner, il faut la malaxer, il faut la rendre acceptable pour le semeur qui arrive avec sa semence, qui la répand. Je dirais que lui, en fait, c'est peut-être celui qui a le moins de choses à faire. Il répand, et c'est Dieu qui fait germer, qui arrose, qui fait grandir. Si le terrain n'a pas été bien préparé, oui, on ne va pas récolter grand-chose. Donc il y a le semeur, et quand la moisson est prête et mûre, il y a le moissonneur. C'est un travail harassant qu'il a, lui. Le moissonneur, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les gerbes, mais aussi il sépare le grain du chaume, de la paille plutôt. Le chaume, c'est ce qui reste planté dans le sol. Et ce moissonneur, une fois qu'il a séparé, qu'il a récupéré le grain, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène au meunier. Le meunier, il moue ce grain, il en fait de la farine. Et cette farine, elle est transmise au boulanger, qui lui pétrit cette farine, y ajoute de l'eau, des ingrédients, et ça devient du pain. Alors le cycle, vous voyez, c'est des étapes. Et avec Dieu, c'est pareil. On a des étapes. Alors qu'est-ce que l'on est? Est-ce que l'on est la terre? Est-ce que l'on est le laboureur? Est-ce que l'on est le semeur? Est-ce que l'on est le moissonneur, le meunier, le boulanger? Je ne sais pas. Chacun sa tâche. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour que le cycle recommence, il faut garder de la semence. Il faut en garder pour pouvoir la répandre à nouveau. Si on broie tous les grains, ça ne peut pas revenir, ce n'est pas possible. Je dirais à chacun sa tâche. Ce que je viens de vous citer, aussi bien pour le papillon que pour la fabrication du pain, c'est un peu pour moi comme une course de relais. Une course de relais, et quand j'ai pensé à ça, quand cette image m'est venue, j'ai pensé aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu bientôt. Et vous savez qu'il y a la flamme olympique, il y a ce flambeau, cette lumière qui part d'Olympe, d'Olympie, en Grèce, et qui est amenée dans le pays où doivent avoir lieu les Jeux. Alors ce sont des personnes qui courent, qui se passent le flambeau de main en main. Je ne sais pas comment ils vont faire avec la Covid, non, mais bon. Ils vont devoir désinfecter le flambeau à chaque fois. Mais ça passe de main en main. Il y a un détail, parce que ce ne sont pas que des athlètes qui transportent cette flamme. C'est des personnes qui ont été choisies, que l'on veut honorer aussi. Ça peut être des enfants. Eh bien, ces relayeurs, ils ne parcourent pas tous la même distance. C'est en fonction de leurs moyens, de leurs conditions physiques. Je me souviens d'une année où c'était des personnes handicapées qui portaient cette flamme. Donc, en fonction de ce que nous sommes, nous avons une étape à franchir, mais qui n'est pas forcément identique à celle de notre voisin. Ça, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, jamais, Dieu nous laisse, nous abandonne. Jamais, 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 jamais. Je vais vous citer un exemple qui est biblique. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Jean-Baptiste, lui, était de l'époque de Jésus. Il a prêché, annoncé sa venue. Et quand Jésus est venu, s'est manifesté, Jésus a confirmé ce qu'avait dit Jean-Baptiste. Jésus l'a confirmé par des miracles, il a montré qu'il était le Fils de Dieu, que c'était lui notre Sauveur. Et quand il est parti, quand il a été rappelé, après avoir pris, comme l'a dit Vincent, tous nos péchés sur la croix, il aurait pu partir et puis « bye bye, j'ai pris vos péchés ». Ça s'arrête là. Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Consolateur. Il a envoyé le Saint-Esprit vers nous. On va aller dans Jean 14, les versets 15 à 18. Jean 14, les versets 15 à 18. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On peut comprendre aussi un autre défenseur, un autre soutien, une autre aide. Et là, il y a un détail, mais hyper important. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Et là, le début du verset 18 nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Non. Avec Dieu, avec Jésus, il n'y a pas d'abandon, pas de solitude. Il est là à chaque instant, quelle que soit notre situation, quelle que soit l'épreuve que nous passons, il est avec nous, près de nous. On va aller dans Jean 15, les versets Jean 15, les versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. On va poursuivre dans Jean 16, le verset 1. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Je poursuis avec le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au verset 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Oui, maintenant nous avons le Consolateur pour l'éternité, éternellement avec nous. Il est avec nous. Jésus est parti, a rejoint le Père, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Or c'est vrai, la pandémie, la Covid nous a éparpillés. Il y a des frères et des sœurs que l'on ne voit plus. Les nouvelles que l'on a, on suit par Internet les cultes. On a quelques coups de fil, des partages éventuellement de temps en temps. On a des nouvelles par les uns et les autres, mais on ne les voit plus. Nous sommes éparpillés. Dans ma prière de tout à l'heure, du début, je vous disais que, en fait, Jésus, il est prêt à mettre de côté 99 de ses brebis pour retrouver la centième qui est perdue. Bien, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas maintenant. Il veut que nous nous regroupions, que nous revenions. Alors Seigneur, oui, touche ceux qui sont éparpillés, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc il y a eu cette maladie, ce microbe, ce virus qui nous a fait beaucoup de mal. Il y a eu aussi le départ de Jean-Robert vers Dieu. Dieu l'a rappelé. Et je pense que je vais passer sur plein d'étapes aussi de disparition. Rappel d'une de nos sœurs, Vincent qui a été atteint de la Covid. Beaucoup de ces choses nous ont peut-être laissé perplexes dans l'interrogation, dans le questionnement. Pourquoi ? Alors quand vous regardez les choses, quand vous sortez un petit peu du cadre dans lequel on est, on peut se rendre compte qu'il y a des églises qui ont disparu. Elles ont disparu et j'ai une pensée pour les églises, nos frères catholiques. Combien d'églises dans les villages on voit s'est fermé parce qu'il n'y a pas de curé. Les brebis sont égarées, mais chez nous aussi, il y en a de temps en temps. Je pensais à l'église de la Morlaix qui s'est retrouvée sans pasteur et qui a... Les brebis se sont éparpillées, certains sont allés dans d'autres églises, d'autres je ne sais pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de relève. Rien n'avait été prévu. Il y avait une tête. La tête a été coupée. Et les brebis se sont retrouvées abandonnées, laissées à elles seules. Alors je vais vous dire, ce n'est pas le cas à personne. Je vais vous rassurer tout de suite. Ce n'est pas le cas. Merci Seigneur. Alors, le mardi où on a appris que le départ de Jean Robert, le soir même, j'ai reçu une parole. J'ai reçu une parole et je l'ai reçue. D'habitude, j'ouvre, je prie, j'ouvre ma Bible et là, je suis touché. Et là, j'ai reçu cette parole, j'allais dire spontanément, sans ouvrir la Bible, elle est arrivée comme ça. Alors, c'est vrai que quand je reçois des messages comme ça, je me pose toujours la question, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est toi, Seigneur ? Est-ce que c'est toi qui veux parler à travers moi ? Et avant de délivrer ce message, j'attends un signe. J'attends un signe, et souvent c'est dans un champ d'un culte qui a lieu avant, c'est par un moment de prière avec un frère, c'est pendant la réunion de prière du mercredi, il y a des paroles qui sont répétées, là je me dis ça y est Seigneur, tu m'as donné le signe, il faut que je délivre ce message. Et ce signe, il est venu eh bien, lundi soir. Lundi soir, un des pasteurs qui était présent a dit dans sa prise de parole, il a fait une comparaison entre Jean Robert et Vincent. Il a dit Dieu a désigné à Moïse Josué comme successeur. C'est exactement le passage qui m'avait été transmis. Il n'y a pas de hasard, je l'ai déjà dit. Tout est providence. Tout est dirigé par Dieu. Tout est dans les mains du Seigneur. Il faut se tourner vers lui, il faut être à son écoute. L'église de Persan a un rôle dans le plan du Seigneur. J'ai eu cette vision. Je ne suis pas le seul, je pense. Ça n'a pas été facile. Si vous revenez un petit peu en arrière, ça n'a pas été facile. Je dirais que l'adversaire est conscient du rôle que l'église de Persan a dans le plan de Dieu. L'adversaire a voulu décapiter l'église de Persan. Et ça a commencé, je vais peut-être dire pour certains d'entre vous des choses douloureuses, mais ça a commencé par la chute de Jean Robert quand il est tombé. Qu'il était entre la vie et la mort. Je me souviens c'est Laurent qui nous avait dit, mon père était allongé sur le sol, il disait, Seigneur, si tu veux me reprendre, je suis prêt. Non, c'était une attaque de l'adversaire. Je ne dis pas que Jean-Robert n'était pas prêt à ce moment-là, attention. Ça a été un passage difficile, parce que d'un seul coup, enfin, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, il y a des frères et des sœurs capables dans notre église, évidemment, mais on n'était pas prêt à ça. Si Jean-Robert était rappelé d'un seul coup, il n'y avait pas de successeur officiel, désigné. Et puis, Vincent est désigné, Vincent est formé. Et puis, il y a la maladie de Jean-Robert. Encore une attaque. Avec plein de questions pour chacun d'entre nous. Que va-t-il se passer ? Alors je vais vous dire, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, la lutte de Jean-Robert, le passage par lequel il est passé, pendant ce moment difficile, il a vu, et nous tous, je ne sais pas si vous en avez conscience, on a vu grandir Vincent. On l'a vu grandir dans la tâche qui lui était assignée. Merci Seigneur. On va aller dans Nombre 27. Nombre 27, c'est le passage où l'Éternel montre à Moïse le pays promis, informe, mais lui l'informe qu'il ne va pas y entrer vivant. Alors je sais, peut-être que Lionel va me dire, tu l'enlèves un peu de son contexte, parce que bon, c'est vrai que Moïse n'avait pas suivi les ordres du Seigneur. Je ne dis pas que c'est le cas pour Jean-Robert, bien sûr, mais ce que je voulais vous faire ressentir, c'est que je suis sûr, je suis certain que le Seigneur a montré à Jean-Robert ce qu'allait devenir l'église de Persan. Et que Jean-Robert savait qu'il allait être appelé. Il lui a montré, et aujourd'hui, ceux qui savent ce que va devenir l'église de Persan, c'est le Seigneur et Jean-Robert, parce qu'il l'a vu. Alors, Nombre 27, on va continuer, les versets 16 à 20. Josué est désigné comme successeur de Moïse. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, le fils de Noun, homme en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, de sorte que toute la communauté des Israélites l'entende. Dans Deutéronome 31, les versets 1 à 8, Moïse encourage Josué et Israël. Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus aller et venir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas. Josué passera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, et les pays qu'il a détruits. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Je vais continuer avec le passage qui est dans Josué 1, chapitre 1, les versets 1 et 2. Dans ce passage, Dieu donne ses directives à Josué après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici. » Et toi et tout le peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Alors aujourd'hui, si on est hésitant, si on se pose encore des questions, c'est vrai, on peut se dire, Jean-Robert est le pasteur fondateur de l'église de Persan. Il a été nommé par le Seigneur. Le Seigneur lui a donné des lignes de conduite, des directions à prendre. Il lui a donné ces directions. Jean-Robert les a appliquées. Aujourd'hui, Vincent est nommé, mais il a d'autres visions. Le Seigneur lui a donné d'autres visions, d'autres directions. Nous, êtres humains, on n'aime pas les changements. On est habitué. Je ne dis pas que ce qui était institué par Jean-Robert était mauvais. Attention, hein, c'est le Seigneur qui lui a dit de faire comme ceci, comme cela. Mais on était peut-être rentré dans une routine. Et le Seigneur, il veut un changement. Il veut un changement, déjà parce qu'il a nommé Vincent et lui a donné des directives. Alors, ça aurait été facile pour Vincent de garder les mêmes principes, les mêmes façons de faire. Mais Dieu lui a dit autrement. On n'a pas tous les mêmes distances à parcourir, on n'a pas tous les mêmes armes. Je vais vous parler du combat de David contre Goliath, je vais revenir rapidement dessus. Au début, le roi Saül, quand David se propose d'aller combattre, que fait le roi Saül? Il lui propose son armure, son épée, ses armes, son bouclier. Mais c'est trop lourd. David est trop, je vais dire, malingre. Je pense qu'il n'a pas la stature de Saül. David, il a une fronde et des galets. Et pourtant, il arrive à bout de Goliath. là où tous les soldats aguerris de l'armée de Saül ont hésité à le combattre, lui, le petit berger, avec sa fronde et ses galets, il vient à bout de ce géant. Ce que je veux dire par là, c'est que les armes qui ont été données à Jean-Robert ne sont pas celles qui ont été données à Vincent. Il a d'autres armes. Je ne sais pas si c'est une fronde, c'est peut-être une catapulte qu'il a. Il y a aussi un symbole, en relisant ce passage, qui m'est apparu. Quand Saül propose à David son armure, ses armes, je pense que là, il y a un symbole comme le passage futur de son autorité vers David. Je ne vois pas un roi, un chef de guerre, dire « Tiens, je te prête mon armure. » Là, il y a quelque chose de profond. Alors, c'est vrai que il y a quelques années maintenant, de nombreux mois, j'avais fait un rêve. Et j'en ai parlé dans notre église. Je vous ai dit, le rêve que j'avais, c'était que l'église de Persan était un paquebot, un bateau de plaisance. On est bien, on est sur des chaises longues au soleil, on profite des paysages, on profite de la mer, du soleil, c'est super. Et puis, j'ai vu dans mon rêve, ce bateau, ce paquebot, ce bateau de plaisance, changer d'aspect, devenir un navire de guerre. Un navire fait pour le combat, fait pour combattre l'adversaire. Je pense que c'est ce qui est en train de se réaliser. Ce navire qui peut se transformer en navire de combat, il a fallu d'abord qu'il devienne un navire de plaisance. Ça, c'était le travail de Jean-Robert. On a fait les structures. Maintenant, le travail de Vincent, c'est de l'armer, ce bateau. Et de motiver son équipage à ne plus être dans des chaises longues. Le 14 mars dernier, Éric Lagache était présent ici, dans l'église. Il nous a délivré un message. Il nous a expliqué la mission qu'il avait eue. Et il a eu ces paroles. Toute église est le fruit d'une mission. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu ces paroles, mais moi, boum, ça m'a touché. Et il a rajouté, nous sommes tous appelés à une charge. Ces mots m'ont touché, je me suis tourné vers le Seigneur et rapidement, je l'ai dit à Vincent, je pense que c'était pendant une réunion de prière, j'ai trouvé ma charge, je sais laquelle c'est. Ma charge, c'est d'épauler Vincent et Florence dans leur mission, celle que le Seigneur leur a donnée. Alors je vais vous poser une question. À la vôtre de mission, y avez-vous réfléchi? Vous êtes-vous posé cette question? Vincent a été désigné. Merci Seigneur, tu as préparé la continuité. L'église de Persan n'a pas été décapitée. Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Lionel, lundi soir, a fait quelque chose. Il s'est engagé à prendre, je résume tes paroles, Lionel. Il s'est engagé à prendre la truelle ou l'épée pour aider Vincent à construire ce que le Seigneur lui a ordonné. Lionel a remis pour l'occasion à Vincent un caillou et aujourd'hui je vais faire de même. Et vous, mes frères et sœurs, qu'allez-vous faire ? Vous allez laisser Vincent aplanir seul le chemin ou l'aider à le faire ? Vous savez, quand on doute de quelque chose, on voit, imaginez, on est sur une route, il y a eu une route de montagne, il y a eu un éboulis, et on est là devant et on se dit comment on va faire pour passer ? Il y a une personne parmi nous qui dit bah, on va faire rouler les rochers dans le ravin, puis on va faire un passage. Puis on regarde, on dit, mais la tâche est trop importante. Et lui, il ne cherche pas. Il commence à déblayer, à faire rouler les rochers. Alors il y a deux solutions. Soit on le regarde et on se dit, est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il ne va pas y arriver ? Bon, quand il aura presque fini, on viendra lui donner un coup de main. Il y a l'autre solution, c'est que dès qu'il commence, on y va tous. Et moi, je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Seigneur, touche les cœurs de mes frères et sœurs, parce que, oui, comme l'a dit Éric Lagache, toute église est le fruit d'une mission et nous sommes tous appelés à une charge. Je vous demande de vous tourner vers le Seigneur et de chercher votre charge. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous ne sommes pas abandonnés. Au contraire. Nous avons le Consolateur éternellement avec nous. Tournons-nous vers le Seigneur et cherchons la direction, la charge que nous devons prendre pour être les Hur, les Aaron de Vincent et de Florence. Amen.
Merci Marc pour ce beau message. Bon, bah, la question vous est ouverte. Hein. Alors c'est bien pour ça qu'aussi j'ai un numéro de téléphone pour permettre des temps particuliers pour pouvoir déjà d'avoir des cœurs à cœur, de pouvoir avoir des discussions. Puis voilà, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, je suis là pour ça. Alors il n'y a pas que moi, il y a mon épouse bien évidemment. Parce que voilà, il y a des choses que les hommes ne comprennent pas, que les femmes comprennent. Voilà, et c'est pour ça que j'ai une épouse. Oh, qu'est-ce que je suis béni. Non, ce que je voulais... Si, je suis béni, il n'y a pas de nom. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, effectivement, où on peut travailler ensemble pour l'avancement de Dieu, parce que je vous rappelle une chose, c'est que certes, je suis le pasteur, mais en tout premier point, nous sommes tous serviteurs pour l'Éternel. Il y a des fonctions différentes, mais nous sommes tous au bénéfice de la même grâce pour travailler ensemble. Alors, où on peut travailler ensemble, on peut travailler effectivement chacun de son côté. Ce qui est souvent moins fructueux. Et je rends gloire, entre autres, parce que voilà, on parle de ça, de la bénédiction de pouvoir avoir aussi des liens avec d'autres églises, qui par le temps a été plus compliqué. Mais le passé, le passé. Moi, je suis le Dieu d'aujourd'hui. Je vis avec le Dieu d'aujourd'hui. Et ça, je veux rendre gloire à Dieu. Donc, je veux vous bénir, remercier le Seigneur pour ce message, mais qui nous parle à nous de nos engagements. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a fallu 2 ans pour accepter. Parce que je savais ce que c'était. J'ai vu mon père, les difficultés qu'il a eues, l'opposition qu'il a eue. Le mépris qu'il a eu. Et après, on dit, mais on suit le même Dieu? Je comprends pas. J'ai pas envie de vivre ça. Bon, bah, vu que j'ai décidé d'obéir à Dieu, j'ai dit oui, hein. On a toujours le choix. Ou on travaille ensemble ou on travaille contre. Moi, quoi qu'il arrive, la Bible déclare que je dois bénir. Et en aucun cas, et si ça m'est arrivé, pour ceux qui me connaissent bien, si vous saviez le nombre de fois que je brise mes paroles, parce que je suis un homme et des fois on a des paroles légères, que je brise, je dis non Seigneur, je les bénis. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les mondes de ténèbres. Nous sommes serviteurs et servantes pour l'Éternel, pour l'avancement de son royaume. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et je veux vous bénir dans le nom puissant de Jésus, et je me réjouis de ces temps où nous pourrons individuellement ou par petits groupes se voir pour permettre d'améliorer notre communication, notre compréhension. Et de toute façon, ça sera le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, la communication et le relationnel. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis. Amen.